Le débat avait un petit peu commencé sous la forme d'exemple tout à l'heure. L'exemple d'illustration des propos de Geneviève. Mais donc le débat peut continuer finalement sur des cas particuliers qui vous ont posé problème ou sur un peu plus en avant dans le détail de l'exposé, on va dire. Voilà. Donc si vous voulez, allez-y, la parole est à tout le monde. Voilà. C'est facile à dire, hein.
Alors, sur les cas particuliers ou les questions, il faut toujours très difficile de répondre parce que je n'ai pas toute l'histoire. Donc ce sera toujours en général, ça ne correspond pas toujours à la réponse qu'il faudrait donner parce que c'est impossible avec le peu que j'ai. Quand on travaille en formation, on pose plein de questions pour aller plus loin. Là c'est vraiment très limité.
Oui.
Voilà, mais ça peut être aussi sous forme d'échange, quand vous voulez intervenir.
Oui, comment faire pour rester spontané dans la communication tout en prenant en compte tout ça? Est-ce que c'est pas. Est-ce que la communication non violente permet la spontanéité? À un moment donné, est-ce qu'il faut s'arrêter pour prendre en compte la psychologie de l'autre ou l'état de l'autre?
Oui, alors je dirais que tout dépend de la situation. La communication spontanée, je parle avec une amie, je parle dans la famille. La communication non violente est vraiment intéressante lorsque j'ai quelque chose à dire qui est plus difficile à dire, qui me touche. Voilà, c'est dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment pertinent. Et je ne sais pas, quelqu'un disait, c'est pas sur le moment. Effectivement, sur le moment, quand je suis blessée, je vais être sur la défensive. Et il va y avoir, même si je fais très attention, un petit truc, un peu une pointe là, ça t'apporte quand même. Voilà, moi je sais que ça me demande souvent 3 jours quand c'est pas très important, pour sortir du ressentiment sur l'autre, et pouvoir vraiment après ne plus être sur... À nous je crois qu'il y a quelque chose d'instinctif qui est un peu la vengeance. Tu m'as fait mal, je ne fais pas exprès. Voilà, mais je vais mettre une petite pointe sur l'autre. Une petite pique là. Ça demande du temps. Ça demande du temps voilà, pour pouvoir revenir dans une relation apaisée. C'est pas sur le moment, c'est sûr. Voilà. Et dans une discussion, quand il y a un conflit, quand on voit que ça monte, ça veut dire là je peux plus, j'ai besoin de temps, on le reprendra plus tard. Quand tout le monde est calmé, c'est beaucoup plus facile. Quand on est dans une émotion, notre cerveau rationnel ne fonctionne plus. Si l'émotion est intense, il ne fonctionne plus. Et vraiment. Voilà, on est incapable vraiment de penser juste à ce moment-là. On demande que ce soit apaisé voilà, pour que le cerveau rationnel se remette en marche. Voilà, donc dans la colère, on n'entend même pas les paroles de l'autre. Alors, c'est vraiment impressionnant, mais on est incapable de répéter ce qu'il vient de dire parce qu'on n'entend plus, on ne raisonne plus. C'est le cerveau émotionnel qui prend toute la place à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que c'est, souvent il faut différer. Différer autant que j'ai entendu qu'il y avait des enseignants pour les sanctions, sinon c'est la punition parce qu'on est en colère. Différer les discussions. Voilà, on reprend plus tard, tout le monde est apaisé. Ce sera beaucoup plus logique ce qu'on va dire.
Oui, mais il se peut, moi ça m'est arrivé, que le temps passe, que la discussion ne réapparaisse pas, ne se fasse pas, et qu'elle entraîne des conflits ou de longues années.
Oui, ça demande que ce soit fait.
Oui.
Je diffère, mais oui. Je m'oblige à appelé à reprendre la discussion.
C'est dur, ça.
Oui, c'est dur.
Ouais,
oui,
je trouve.
Mais oui. C'est pas du tout facile, ce que je dis là. Hein. Voilà, parce que quand on n'est pas touché, c'est facile. Hein. Quand on est touché, blessé, c'est extrêmement difficile. On le voyait tout à l'heure, les gens qui réagissaient, là. Il y a la colère qui est là. Non, mais oui, c'est ça qui est là.
Mais ça touche quelque part à notre ego profond, quoi, tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose, un travail tout à fait personnel qu'on doit faire, presque obligatoire, pour, je vais peut-être dire un mot qui va choquer, mais pour aller vers le pardon. Donc à quelque chose de... qui nous ramène à autre chose, quoi, à quelque chose de plus spirituel.
Ça peut, il y en a qui disent pardon, il y en a qui disent, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, relation apaisée, voilà, suivant la religion, ou... Oui, ça demande un travail sur soi. Et pour moi, le pardon ne peut pas être imposé. Quand j'entends des animateurs qui disent « Allez, pardonnez-vous !» Je me dis, mais quand on est en colère, je n'ai pas envie de pardonner à l'autre sur le moment.
Ça, c'est sûr.
On verra à la fin de la semaine si je peux pardonner. Non, mais c'est ça. Alors, on ne peut pas imposer. Pardon, ça ne veut rien dire.
Mais c'est un travail de longue haleine, ça. C'est pas quelque chose qui se fait.
Oui. Bon, même quand c'est des petites disputes, des fois, il y a besoin d'un temps pour respirer, aller mieux. Puis après, oui, ça va passer, mais sur le moment, ce n'est pas ça.
J'ai une question.
Oui, Nina.
Justement, ben, oui. Si on reprend, on a... un conflit, on arrête pour pas dire quelque chose qu'on va regretter après, et on le reprend 2-3 jours plus tard, qu'est-ce que c'était d'ailleurs, et moi j'ai entendu ceci, et très souvent c'est un malentendu entier, hein. On est parti en live sur rien.
Sur rien, oui.
Hein. Et ce pouvoir de dire stop. Et vraiment, de s'arrêter là, c'est vraiment dans un couple, c'est super important de ne pas partir en live.
Parce que c'est l'émotion de l'autre. La colère de l'autre provoque de la colère ou de la peur chez moi. Par exemple, c'est ça. Donc, si c'est de la colère, l'autre est en colère, moi aussi. Et hop, ça monte. Voilà. Et on part du conflit au départ qui est sur un objet. Hein, je prends un exemple, je pense. Voilà. Je veux sortir ce soir, je veux aller au cinéma voir ce film. C'est le dernier soir, je vais à tout prix y aller. L'autre, oh, je suis fatiguée, je ne veux pas y aller. Non, vraiment, je ne veux pas y aller. Tu ne veux jamais sortir avec moi. Tu ne m'écoutes jamais. Toujours comme ça avec toi. Tu ne m'aimes plus. Voilà. Et blablabla. En fait, je voulais aller au cinéma. Il y avait 30. Je préfère. Voilà. Appeler une copine, aller ailleurs, je sais pas quoi. L'objet au départ est complètement oublié pour partir sur un conflit de personnes.
Oui.
Moi, j'ai juste une remarque. Est-ce que certains conflits ne peuvent pas nous amener à penser qu'on ne peut pas être... il faut accepter qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde. On n'est pas obligé d'être ami avec tout le monde.
Vraiment pas.
Et avoir des relations de respect, de courtoisie.
Courtoisie.
C'est compliqué d'accepter qu'on ne peut pas s'entendre avec tout le monde.
Non.
C'est
facile. Voilà, c'est comme. Mais je suis d'accord. Moi aussi, je pensais qu'on pouvait toujours régler les conflits, qu'on pouvait toujours avoir une relation apaisée. Ça, des fois, on le voit, des fois, j'entends ça. Mais chez nous, il n'y a pas de conflit. Ben oui, il y en a un qui se tait tout le temps. Ah, ou les deux se taisent. Hein. Ben oui, pas de conflit.
C'est moi.
C'est toi. Voilà, donc, accepter, oui. On ne peut pas être ami avec tout le monde, ça, c'est sûr. Hein? Et que même dans les relations familiales, je dirais, c'est de voir qu'est-ce que je peux faire avec cette personne. Voilà, moi je pense à un exemple où c'était vraiment difficile avec une personne de ma famille. Voilà, mais j'avais l'impression que j'étais toujours à rechercher la relation avec cette personne, comme s'il fallait vraiment que ça marche. Bon, j'ai pris vraiment du recul et je me dis, mais avec elle, oui, on peut se voir quand il y a un repas, on discute des enfants, il n'y a aucun problème. pourquoi aller chercher plus loin? Puisque on ne peut pas. Il y a des choses qui m'énervent, mais elle aussi. Voilà, mais on peut avoir des relations quand même. Voilà, c'est quelle relation je peux avoir avec chaque personne? Alors, les personnes qui nous déclenchent le plus, enfin, au Québec ils disent ça, déclenchent, je trouve que c'est juste. Ce sont celles qui nous font le plus travailler. Parce qu'elles réveillent nos blessures, mais ça nous permet d'aller voir hein, qu'est-ce que c'est qui est touché en moi. Et de pouvoir revenir dans une relation, ce que je n'ai pas pu faire avec mes parents ou quand j'étais enfant. Aujourd'hui, peut-être je peux réparer. Voilà. Mais il y a même des fois où c'est, on se sépare. Enfin, je ne parle pas de couple automatiquement, hein, mais voilà, il n'y a rien de commun entre nous. Pourquoi rester dans une relation qui est souffrante? Quand c'est possible, hein, je ne peux pas tout le temps, mais c'est aussi une régulation du conflit, la séparation. Oui. Voilà, quand vraiment, c'est pas possible, quand on a tout essayé. Sauf que souvent, on n'a pas tout essayé. Mais...
Donc, ça peut ne pas être un échec, à ce point de vue-là. Le fait qu'on n'arrive pas à rester dans le conflit, qu'on dise, bon, bah, tant pis, j'ai rien à faire avec cette personne, c'est tout. Et c'est pas forcément un échec. Voilà. Donc, je veux dire, ne pas oser s'entendre avec tout le monde.
Voilà, mais je peux respecter l'autre.
Ah ben ça oui, monsieur.
Voilà, je peux respecter la personne de l'autre, sauf que oui. Moi, je ne voilà, peux pas vivre avec, ou je ne peux pas travailler avec, ou je ne peux pas.
Mais pas travailler. Si par exemple c'est un groupe constitué, soit associatif, soit un groupe de travail, collègue de travail, des fois on est obligé de fonctionner.
On est obligé.
Donc des fois il y a quand même une difficulté entre ce qu'on ne peut pas vivre avec l'autre, mais qu'on est obligé parce qu'on subit la présence. Enfin, moi j'ai une collègue par exemple avec qui ça passe pas, mais je la côtoie quand même. Et c'est difficile. Je sais qu'on s'entendra jamais.
Non, je n'aime pas ça.
On ne s'entend pas.
Oui, j'ai vu les
deux. Et c'est difficile de fonctionner. Et bon, je le sais.
Tu veux répondre là?
Oui. Et tu acceptes de ne pas avoir des relations?
Ben, j'ai des relations professionnelles minimum, voilà. Obligées, mais pas plus. Ouais. Mmh. Et c'est difficile de subir quelqu'un que qui n'y a pas du tout.
Ce que je veux dire, parce que tu es là devant ton nez.
Des fois, ça fonctionne de sortir du conflit, de mettre un pas sur le côté. Là, il y a le conflit qui passe et tu te mets en dehors de cette ligne, intérieurement. Tu sors, soit tu... Avec ma collègue, on ne se parle plus parce qu'elle voulait absolument avoir un paravent entre nos deux bureaux et moi, je ne voulais pas parce que ça m'a coupé la lumière. Et on s'est engueulé et tout et tout. Et j'ai pris le classe avec une boîte d'œufs de ma voisine que je lui ai amenée le matin. J'ai dit, putain, j'ai des œufs de trop, tu en veux?
La figure.
Là, c'est prisé.
Elle a dit de la figure.
Non, elle n'a pas fait ça. Donc, là, c'est prisé depuis. Je suis sortie du conflit.
Voilà, ça peut être, oui, tout à fait. Hein.
Oui, voilà, c'est... Elle ne t'insupporte plus. Tu veux dire que maintenant, ça se passe mieux parce que...
Ça passe mieux, on n'a pas lu par avant et...
Ah,
on n'a pas lu. Ça, c'est quelque chose qui est désigné pour nous, quoi. Mais à lieu de rester avec quelqu'un en face...
C'est les raisons pour lesquelles ça ne va pas entre vous, elles existent toujours. Les raisons pour lesquelles vous ne vous entendez pas.
Mais le paravent, il est parti
du
paravent.
Non, le paravent,
c'est
pas que
le paravent.
Je peux tout écouter, quoi.
Oui, oui, on a pas. Et le paravent, ça dépend de ce qu'on doit faire avec la personne. Comment on doit fonctionner, ça dépend du cadre du travail et ce qu'on doit faire. Moi, cette collègue, j'ai fait un truc avec elle.
Voilà, c'est ce qui est difficile, c'est quand on doit faire avec l'autre.
Ça ne peut pas toujours marcher, mais c'est des fois, ça vaut le coup de l'essayer.
C'est de l'humour quoi, aussi. Ça peut être l'humour. Une personne qui a de l'humour peut forcément, des fois, bon, ben ça, c'est pas donné à tout le monde.
Non.
Non.
Il faut trouver l'autre. Et c'est pas de l'ironie, hein.
Non, non.
Ok, pas de l'ironie. Mais surtout pas de l'ironie, non. Oui.
Encore un autre exemple. Des fois, quand on est fâché sur quelque chose, c'est très utile de regarder comment moi je le fais, moi. Parce que je me fâche régulièrement parce que Francis ne range pas les livres dans le frigo et ça reste pendant 3 jours sur le four et après c'est foutu, hein, ça m'agace. La nourriture à jeter, ça m'agace. Hein. Et quand je me suis rendu compte que moi non plus, je ne l'ai pas mis dans le frigo, la thème était réglée. Quoi. Hein, parce que 3 jours plus tard, moi j'aurais aussi pu mettre la nourriture dans le frigo. Je ne l'ai pas fait, lui non plus, et la nourriture a été foutue après, d'accord. Mais pourquoi je gueule après lui, quand moi je ne le fais pas non plus. Des fois dans des conflits comme ça, de se regarder soi-même, comment moi je le fais, ah bon, je le fais presque pareil, ça apaise aussi.
Voilà, moi ça m'arrive très souvent aussi, voilà, quand je reproche quelque chose à l'autre, et moi, par exemple, il ne me donne pas les informations, je pense que quelqu'un ne m'envoie pas les informations, tu sais, ça me fait suer. Moi non plus, je n'ai pas envoyé les informations sur autre chose parce que ce n'était pas important pour moi, mais être pour lui, ce l'était. Chaque fois, je fais pareil. Et moi, dans cette situation, comment je fais? Alors, moi, je pense que il y a des relations qui sont difficiles. Moi, j'ai vécu un exemple où je pensais une relation impossible. C'était au Québec, dans un groupe. Il y avait une personne avec qui ça ne passait pas du tout, ni de sa part, ni de ma part, donc ça allait très bien. On ne s'était pas côtoyé toute l'année, aucun problème. Voilà. Et puis, bon, on avait des réunions où on pouvait se dire ce qui n'allait pas les unes et les autres, mais il y avait l'animateur qui gérait ça. Donc, elle a pris la parole pour dire qu'avec moi, ça n'allait pas. Voilà. Elle a dit pourquoi et tout ça. Donc, j'ai dit aussi que moi aussi. Voilà. Et bien, quelques temps après, on a pu travailler ensemble. Voilà, vraiment avoir des relations, ce que je pensais vraiment impossible avec cette personne. On n'avait rien de commun, absolument rien. Voilà, donc je me dis, les relations que je pensais impossibles, je n'aurais dit jamais, j'aurais pu m'entendre avec cette personne, puis il n'y avait aucun intérêt. Voilà, ça a été possible. Je dis, quand il peut y avoir la communication avec un tiers, parce que sinon, je pense que ce ne serait pas passé au début. Au bout de 3 ans, peut-être, on aurait su faire, mais là, on ne savait plus, on ne savait pas encore. C'est possible. Voilà, j'ai expérimenté plusieurs fois avec des personnes où je me disais, mais non, vraiment, il n'y a rien de commun entre nous. Voilà, si on met de la communication, c'est possible. Et même si on est complètement différent, voilà, on n'a pas du tout les mêmes loisirs, pas du tout le même travail, pas du tout le même niveau, tout ça, c'est possible de faire quelque chose ensemble. Et vraiment, pour moi, la communication, c'est essentiel pour y arriver. Et c'est beaucoup plus difficile quand le conflit est déjà là. Voilà, que quand c'est avant, ou quand il y a un petit malaise, ou quand il y a quelque chose qui dérange. Parce que c'est Isabelle Fidiosa qui dit, on fait la collection des timbres. Hein, quand il y a une personne qui nous dérange. Voilà. Et chez elle, on va relever tout ce qui nous dérange. Alors que ce serait quelqu'un d'autre, on ne le relèverait pas. À un moment, je sais qu'on avait, pour sortir de chez nous, il y avait souvent des voitures qui nous coinçaient, on ne pouvait pas sortir. Alors quand c'était mon ami le voisin, ben j'allais le voir, j'étais tout contente d'aller le voir, de parler avec lui, de lui dire d'aller sortir sa voiture. Quand c'était l'autre voisin que je n'aimais pas, je râlais. Je me disais pourtant la voiture c'est la même, je ne peux pas sortir quand même. Enfin, mais c'est ça qui se passe.
Et quand tu dis la communication, Geneviève, par exemple, moi, je pense avec ma sœur. Ma sœur, elle me coupe souvent la parole parce qu'elle me dit que je parle fort. Alors après, je peux plus, je me tais. Si tu veux, non. Je parle
plus. Ils te disent plus fort.
Ah oui. Mais oui. Si tu veux, tu comprends ce que je veux dire. La communication, c'est quoi la communication? Quand la personne te coupe. T'empêche de parler parce que tu parles pas comme elle voudrait t'entendre. Mm-hmm.
Qu'est-ce que tu dis, Chantal?
Oui.
Et qu'est-ce que tu lui dis?
Eh bien, je lui dis, je sais pas.
Mais oui, c'est souvent ça. Souvent, voilà. Voilà. Mais moi, quand tu me dis que je parle trop fort et que tu me coupes dans ce que je dis, alors moi, j'ai envie de me taire.
Et oui, oui.
Moi, ça me bloque complètement, du coup, je me tais. Voilà. Juste quand on dit quelque chose comme ça, l'autre va être sensible.
Ah ouais, ouais.
Sinon, si je dis rien, ben,
voilà,
elle va continuer.
Et ouais.
Ça nous demande, chaque fois, mais c'est un effort, hein. Comme je me disais, mais c'est un effort de parler de soi, de dire comme ça. Oui, c'est un effort. Et puis on a peur que l'autre se vexe, et puis on a peur qu'il se fâche. Oui, il y a tout ça. Chaque fois.
Qu'est-ce qu'il arriverait si tu continues de parler fort? Tu t'en fous?
Non.
Elle n'y arrive pas.
Non, je me tais. Voilà, ouais.
Non, mais essaye. Essaye différemment. Tu vas voir ce que ça donne. Change de chance, le rôle. Ou tu commences à chanter. Dès qu'elle te coupe, tu commences à chanter. Peut-être qu'elle le remarquerait.
Les parapluies de Cherbourg.
Voilà, mais tu peux dire ça que ça te fait vivre. Ouais. Nous avons comme pouvoir, c'est de dire ce que ça nous fait vivre. Quand tu me dis que je parle trop fort, moi j'ai envie de me taire, hein, parce que ça fait.
Cette bouche m'a cassé.
Quand une réunion se passe mal, j'ai l'expérience, bon j'étais pas présente, mais j'ai entendu parler, une réunion d'association qui s'est mal passée avec des accusations, des invectives, des démissions, pour souffrir, etc. Est-ce qu'il y a moyen de rebondir en tant qu'adhérent, adhérente, qu'est-ce qu'on peut proposer? Est-ce qu'on peut proposer une médiation? Comment ça sera perçu? Quelle pourrait être la solution dans ce cas de figure? Pour rebondir, pas que l'association se explose.
Mmh. Qu'est-ce que vous voyez, vous, là où vous êtes, parce que là, je ne sais pas, nous savons ce qui s'est passé et tout ça. Vous, qu'est-ce que vous voyez comme solution?
Mais moi, on m'a raconté, bon, j'ai vu les émotions des gens par rapport à ça.
Ouais.
J'y étais pas, non? On m'a rapporté les informations, apparemment, ça s'est vraiment très mal passé. Mmh. Et j'étais en train de penser, de proposer, mais j'ai peur de blesser aussi les gens qui dirigent souvent un ego assez important, et quand on leur dit des choses, c'est pas évident, quoi. Donc, de proposer une médiation. Alors, je sais pas trop comment ça va être pris, je n'ose pas trop proposer.
C'était entre deux personnes ou il y avait plusieurs personnes?
Non, c'était entre deux groupes.
Plutôt. Deux groupes, ouais. Vérifier comment ça va être proposé. Voilà, vous pouvez dire, voilà, moi j'ai envie de proposer une médiation parce que je ne suis pas bien avec ça, on m'a dit ça.
Ouais.
Voilà, est-ce que vous acceptez? Parce qu'il faut qu'ils acceptent pour la médiation,
oui,
les deux parties acceptent. Mm-hmm. Voilà. Bien, voilà.
On peut le présenter tout simplement.
Tout simplement, la plupart du temps c'est très simple, oui.
D'accord.
Voilà, puis s'ils disent non, on ne le sent pas, on ne veut pas, bon, on peut faire plus.
D'accord.
Alors, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qui c'est qui est garant, qu'il n'y a pas d'accusation les uns sur les autres, ou de jugement, voilà, des choses qui blessent. Alors ça, c'est nécessaire que l'animateur ou une autre personne, n'importe, puisse faire reformuler, hein, quand il y a le jugement, le faire redire autrement. Je pense par exemple à nos enfants, là, quand ils étaient au collège, où ils arrivaient souvent le soir, « Ah, ce prof, qu'est-ce qu'il est con !» Ça, c'est comment je reformule. Ça ne s'est pas bien passé pour toi à l'école. Et voilà, bon, ils se mettaient à parler, on sortait du jugement sur la personne pour parler autrement. Ben, oui, tu n'es pas content parce que tu avais étudié, puis tu as eu une mauvaise note. Soit c'est des trucs comme ça, quoi. Donc, il y a un jugement sur une personne, plutôt que de dire « Il ne faut pas juger, ça... » Voilà, quand l'autre est en colère, ben, ça sort. De reformuler autrement ce qu'on entend pour faire parler la personne et qu'elle puisse dire ce qu'elle vit, au lieu de rester sur le jugement sur l'autre. Voilà, dans les associations, c'est pareil. C'est un jugement. S'il y a quelqu'un dans le groupe, si vous savez faire, reformuler, oui, c'est difficile pour toi quand, voilà, quand on dit qu'on fait quelque chose et puis c'est pas fait ou c'est passé.
Peut-être déjà être dans l'empathie au début avant de faire une proposition, peut-être, c'est peut-être ouais.
Dans ce sens-là. Toujours. Je dirais toujours, c'est toujours être dans l'empathie, écouter avant de donner un conseil, de faire quoi que ce soit. Voilà, tu as été blessé quand on t'a dit ça, voilà, si l'autre se sent entendu là-dessus, il pourra aller plus loin. Tant qu'il n'est pas entendu, que tu as été blessé, ben, il ne faut pas entendre autre chose, souvent.
Bien.
Oui, c'est pas une déclaration de guerre. Hein.
Non. Mais j'ai énormément
de mal
à.
Oui.
Parce que j'ai peur du conflit, justement. Et de ne pas peut-être arriver à le.
Enfin,
où je me fais des idées.
Oui. À vérifier. Peur du conflit, peur de ne pas être aimé, souvent. Ben, si je dis non, si je ne suis pas disponible. Voilà. Derrière, il y a ça. C'est ça qu'on a à travailler. Mais ça peut être vérifié, voilà. Là, vraiment, je...
Alors, je ne sais pas. Alors, ce serait quoi la technique, hein, par exemple?
Alors, on vous demande, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez venir m'aider demain, hein? Comment vous pourriez dire non?
Dans une situation, il y a quand même des personnes qui ont du charisme, qui sont imposantes.
Difficile. Difficile.
C'est difficile. Enfin, voilà, il y a cette prise de pouvoir qui est une réalité dans des groupes et c'est quand même un sacré effort de,
oui.
De dire non et de s'affirmer aussi.
Oui.
S'affirmer sans agressivité, parce que je pense que s'affirmer, c'est pas être agressif, c'est pas du tout. Dire les choses librement. Et... C'est pas facile.
Voilà, c'est pas facile. Ça demande un effort, hein, d'oser dire.
Du courage aussi, peut-être.
Du courage. Mais c'est se respecter. Non, pas de dire non à tout, c'est pas ça. Et c'est vraiment quand on ne peut pas que. Voilà, se respecter, c'est vraiment dire parfois non parce qu'on est trop au travail, parce qu'on n'est pas disponible, parce qu'on a besoin de temps pour nous. Parce... Voilà, mais j'entends que face à des personnes qui.
Ouais.
Hein,
qui ont du poids, qui sont. Ça peut être compliqué. Hein,
Alors, après, ce qui peut être vérifié, c'est si, voilà, quand vous dites non, c'est, mais voilà, j'ai peur de blesser ou j'ai peur de... On peut aller comme ça, voilà, ou j'ai peur que ça...
De dire à l'autre, mais je trouve que de dire à l'autre, c'est valider le poids qu'il a sur nous aussi, en même temps. De dire, je ressens que tu me fais peur, enfin, je ressens de la peur, c'est le nourrir aussi de quelque chose. Non,
c'est pas comme ça que je dirais. C'est, moi, j'ai peur en te disant ça que tu le prennes mal, par exemple. C'est différent. Voilà. Ou j'ai peur du conflit si je te dis ça. Hein, ou j'ai peur que tu m'aimes plus si je te dis ça. Toi, c'est différent que de dire tu me fais peur. Alors, le pouvoir, c'est le pouvoir qu'on donne à l'autre. L'autre, oui, il peut être imposant, il peut affirmer ses idées, il peut... ça c'est vrai. Voilà. Mais est-ce que je le laisse faire? Voilà, ou est-ce qu'il a quelqu'un en face? C'est ça. Hein, moi je dis souvent, s'il y a un bourreau, il y a une victime. Il ne peut pas être bourreau tout seul là-haut. S'il y a un dominant, il y a un dominé, sinon il n'est pas dominant. Donc c'est toujours l'équilibre. Hein, parce que souvent, bon, on plaît la victime, le bourreau, on le rejette. Mais Bon, quand je parle de ça, je ne parle pas si je reçois un coup de couteau dehors et que. Je ne parle pas du tout de ça. Hein. Voilà. C'est quand je laisse le pouvoir à l'autre, je dirais, hein, dans nos sphères familiales, associatives, tout ça. C'est quel pouvoir je laisse à... C'est souvent ça, quoi. Il y en a un qui décide, par exemple, dans une réunion. Il y en a un qui décide. Mais pourquoi on le laisse décider? S'il y en a 10 qui disent non, il ne pourra pas décider tout seul.
Et pourtant, parfois, si, il y a des gens comme ça qui peuvent décider que les autres n'osent pas dire.
Oui, parce que les autres n'osent pas dire, oui. Donc, notre responsabilité, c'est comment je vais dire qu'on n'est pas d'accord. C'est ça. Donc, très souvent, le pouvoir qu'on donne à l'autre, il le prend, mais on lui en donne plein.
C'est justement, je voudrais rebondir sur ce que tu avais dit tout au départ, dans les associations, très souvent, parce qu'on se juge tous égaux, on ne met pas un cadre exact. Toi, tu fais ça, toi, tu as tel pouvoir, toi, tu fais ça, toi, tu fais ça. Et parce qu'on ne le fait pas, il y en a qui dit, ah, je vais faire le protocole, le compte rendu, et l'autre qui, parce qu'il parle tout le temps, va prendre... Chacun prend une part du gâteau, sans qu'on s'est mis d'accord, quel morceau du gâteau il peut prendre, et de se mettre justement dans nos associations, de se prendre le temps de définir. Toi, tu es président, tu fais ça et ça. Toi, tu es secrétaire, tu fais ça et ça. Et pendant tant de temps, pendant un an, tu fais tout le compte rendu. Et c'est personne d'autre qui le fait. Tu vois, et c'est toi qui vas le relire. De vraiment se prendre le temps de définir qui fait quoi. Je trouve ça super important que tu as au départ.
Ou au moins, tu es responsable. Par exemple, l'animateur, il n'est pas obligé d'animer chaque fois. Mais il est responsable qu'il y ait quelqu'un qui anime, voilà, de vérifier qui anime. Le secrétaire, même s'il peut prendre compte rendu, mais au moins qu'il vérifie qui le fait. Voilà, c'est ça, c'est la responsabilité. C'est pas de le faire automatiquement. Mais c'est sûr que ça évite des conflits. Voilà, plus c'est précisé, plus c'est facile.
Et du coup, peut-être cette personne n'aurait plus autant de pouvoir dans cette assoce.
C'est pas toujours bien organisé.
Oui, mais souvent c'est ça, oui. Puis il y a des gens très disponibles qui prennent beaucoup de choses. Quand ils ne sont pas là, il n'y a rien qui se fait. Un équilibre.
C'est cool.
Puis il y a des fonctionnements déjà installés.
Quand on arrive.
Et c'est difficile de faire bouger les choses qui sont. Puis vigueur, et puis. S'il y a une minorité de gens qui veulent les faire changer aussi, c'est possible.
Oui. Voilà, donc ce qu'on dit, c'est pas... Voilà, ce ne sont pas des choses faciles, hein. C'est facile du tout. On peut. Eh oui.
Oui. Est-ce que ce serait la même façon d'agir pour, quelque chose qui est autogéré ou dans d'autres cas où il y a une hiérarchie et donc avec des autorités ou des responsabilités définies. Est-ce qu'on agit de la même manière?
Évidemment. On est au cœur des relations de domination. Enfin, je veux dire, tout ce que vous dites, c'est des retraites, c'est bien, mais à mon avis, il faut qu'on aille plus loin dans la réflexion sur qu'est-ce qui domine souvent tout ce qu'on raconte là comme relation. Enfin, le problème, il est qu'il y a des relations de domination, enfin, il me semble. Dans quelque chose d'autogéré, les relations de domination, a priori, est diminuée. Enfin, je veux dire, tous ces systèmes pyramidaux qui font qu'on se retrouve souvent dans des situations de dominé ou de dominant, à mon avis, c'est là qu'il faut agir. C'est qu'il faut essayer de mettre en place des systèmes qui ne soient plus pyramidaux. Il faut refuser les hiérarchies, il faut refuser tout ce qui va arriver à des relations où il y aura des gens qui auront des pouvoirs sur les autres. Quoi. Enfin, moi, il me semble que j'ai cet avis là-dessus. Quoi.
Là, voilà, c'était sur les associations, les groupes, donc effectivement, il n'y a pas de
hiérarchie.
Il y a des relations de pouvoir.
Non, je dis, il n'y a pas de hiérarchie au départ.
Il n'y a pas
de
patron.
Des relations de pouvoir.
Non, président, je suis désolée, selon les statuts, il y a des présidents, il y a des pouvoirs que la loi doit faire.
Et puis les responsables, hein, devant la loi, déjà.
Les responsables, oui. Oui, alors, la question, c'était... Oui.
Est-ce qu'on utilise les mêmes techniques non-violentes que vous avez exposées?
Alors, sur la communication,
c'est autogéré.
Bien sûr, mais on peut dire à son chef ce que ça vous fait vivre, voilà, certaines choses. Sur l'écoute, je dirais oui. Après, qu'est-ce que... Sur, quand on a dit de définir les tâches et tout ça, bon. Sur d'autres choses, je dirais que c'est eux qui imposent le travail, par exemple, tout ça. Là. Je ne vais pas en commencer, mais il y a des endroits où ça peut être discuté, il y en a d'autres où ça peut être discutable ou négociable.
Mais je trouve que c'est une excellente question, mais c'est presque notre débat, quoi. Est-ce que vraiment on a besoin d'un chef ou pas? Est-ce que c'est inhérent à toute personne humaine de... Enfin, le pouvoir, c'est quelque chose, comme tu l'as dit, on est parfois dominé, parfois dominant. Donc, bon, c'est la réflexion sur le pouvoir, quoi. Voilà.
Il y a des sociétés dans le monde qui ne sont pas du tout organisées comme chez nous et où il y a beaucoup moins de problèmes comme ceux que vous décrivez. Alors que tout ce que vous décrivez, on a tous l'impression de le connaître, quoi. C'est des choses qu'on a vécues parce qu'on est dans un contexte culturel qui a été porté par 2000 ans de domination, quoi. Et du coup, et on est habitué à ces systèmes pyramidaux où il y a des gens qui sont au-dessus et des gens qui sont en dessous. Mais il y a d'autres sociétés qui sont construites autrement où ils n'ont pas du tout affaire à ce genre de choses, quoi. Voilà. Alors, je ne dis pas qu'il y a des sociétés idéales, hein, mais en tout cas qu'on résolue ces petits problèmes-là. On en créé d'autres peut-être, mais voilà. Je veux dire que des fois aussi, c'est bien d'arriver à élargir la réflexion pour comprendre un peu comment ça se construit aussi, peut-être nos relations, quoi. Je ne sais pas. Hein. C'est une idée, voilà.
Oui, on pose le problème de l'autogestion, quoi.
Enfin, moi, ce que je trouve aussi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, ce discours-là, il déconstruit des choses. Après, il faut reconstruire derrière, quoi. Mais moi, ce que j'entends, c'est qu'on a des fonctionnements qui nous viennent pauvres comme ça et qu'il faut qu'on les déconstruise, quoi. Et quand on déconstruit, après, il faut remonter quelque chose derrière. Et c'est là que ça peut être différent. Mais bon...
Il y a la construction de la relation entre deux personnes et puis il y a la construction de la société dans laquelle on vit qui fait qu'on arrive à établir ce genre de relation. Du coup, il y a plein d'échelles en fait de... Voilà, il y a plein d'échelles de réflexion. Bon, c'est tout, hein, c'est juste
pour élargir. On est un peu prisonnier aussi de ça.
Mais on est aussi acteur.
Oui, voilà.
On fait la société de demain à travers l'éducation qu'on donne à nos enfants.
Exactement.
Ben, je veux dire, si on s'efforce aussi d'essayer de ne pas établir de hiérarchie dans nos relations entre parents-enfants, par exemple, des choses comme ça, on peut espérer petit à petit sortir de ce cadre social qui fait qu'on ne connaît que ça, en fait. On est habitué à ce système pyramidal. Et si on se dit que ça ne tient pas qu'à nous, individus, mais aussi à la façon dont notre société est construite, et qu'on se dit on peut peut-être essayer de l'imaginer autrement, c'est vrai qu'à travers les relations individuelles, on peut construire d'autres choses, comme tu dis, reconstruire, essayer de construire autre chose.
Parce que moi, je trouve que là, justement, ce qu'on entend, c'est que les deux personnes se retrouvent au même niveau, quoi. Et que c'est là qu'on peut commencer à ce qu'il y ait un échange réel.
Mais ça, on peut aborder le problème d'une autre façon aussi, c'est que, par exemple, dans la relation maître à disciple, ce qui est, il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas cette position. Moi, je trouve que c'est quelque chose de tout à fait positif, dans la mesure où le disciple prend humblement l'enseignement du maître, quand ce maître est bienveillant, et qu'il apporte quelque chose de positif, qui fera du disciple plus tard un maître, etc., etc. Moi, je pense que c'est tout à fait normal qu'il y ait des rapports de... parfois dominé et dominant, sans qu'il y ait de jugement par rapport à ça, de jugement d'infériorité ou de supériorité. C'est un état. C'est un état. À un moment donné, il y a un maître qui enseigne, et plus tard, un disciple sera aussi enseignant.
Alors, on est dans la relation de pouvoir, comme elle disait, c'est possible. Oui. Par exemple, en Espagne, les professeurs tutoient les élèves tutoient les professeurs, et c'est un rôle d'accompagnement, et on n'a pas besoin d'un maître et l'autre disciple. Enfin, il y a une espèce d'accompagnement dans l'enseignement. Bien sûr, c'est plus de bordel, hein, mais quand même, c'est quand même beaucoup plus homogène. Les enfants, du coup, investissent leur enseignement, leur apprentissage. Et ils peuvent à tout moment dire, discuter avec le prof et dire pourquoi tu fais ça comme ça. Ils sont plus actifs, du coup, ils ne sont pas dans cette espèce de société pyramidale, hiérarchisée, à se mettre, on écoute. Qui c'est finalement un rôle de consommateur, comme tu disais, c'est un rôle de réflexion sur la société. On apprend à tout absorber ce qui vient d'en haut et à écouter les médias, toutes les conneries, et voilà. Et à se taire, à dire ah ben c'est pas possible de faire autrement. Et ce qui fait aussi certaines incertitudes dans les associations, où il y a des gens, on est supposé être tous égaux, mais il y a des gens, parce que c'est humain, qui aiment bien prendre le pouvoir, et d'autres qui n'osent pas réagir, qui vont critiquer par derrière, mais qui n'ont pas osé dire devant. Et enfin, ça crée des malaises et des malentendus, tous ces conflits qui sont dans les associations. Enfin voilà, je ne sais pas s'il y a dans la non-violence, il y a des trucs comme... Des techniques autres que les petites techniques de communication qu'on connaît quand même. Je ne sais pas si il y a une spécificité. Alors, je pensais que c'était vraiment un truc. Tu vois, voilà, il y a des affrontements et on fait quoi? Nous, par exemple, on apprend à gérer les conflits dans les classes, tout ça. On apprend ce que c'est que. Qu'est-ce qui provoque la violence, comment on gère ça, et ça, on se perd. Et il y a autre chose. Oui, on a des formations pour ça. Et donc, je sais pas.
Oui. Alors, moi, je dirais que ce n'est pas des petites techniques de communication. Je dirais la plupart du temps, on ne les utilise pas, même moi. Voilà, et ce n'est pas si simple. L'écoute, pareil, même si je travaillais des années dessus, c'est loin d'être toujours à l'écoute parce que ça demande un effort chaque fois, même l'attention chaque fois à l'autre. Je connais très, très peu de personnes qui le font naturellement dans la vie de tous les jours. Hein, même si on l'est un peu, hein, je ne dis pas qu'on ne l'est pas du tout, mais c'est beaucoup plus pointu que ça. Voilà. Prendre la responsabilité de ce qu'on vit, c'est pas facile non plus. Hein, ce n'est pas des petites choses, c'est un travail d'années, le travail là-dessus. Quoi, hein. Donc, la non-violence, c'est pas une technique comme ça, enfin, c'est tout un travail sur soi, entre autres, et dans la relation, voilà, qui est très long. Ça,
donc c'est pas applicable dans les groupes, je ne vais pas dire genre va travailler sur toi hein, parce que vraiment
non, moi je travaille sur moi
voilà. Oui c'est ça,
c'est
voilà.
Vraiment ça, c'est pas sur l'autre, c'est sur moi ça, ce que je peux faire sur moi.
Oui.
La seule chose que je puisse faire,
donc il n'y a pas de moyens de résoudre les conflits. Enfin, je peux travailler sur moi, c'est clair. Mais je veux dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, mais t'as qu'à travailler sur toi.
Je voudrais revenir sur maître, disciple, dominant, dominé. À mon avis, ce n'est pas les mêmes notions. Parce que quand on est maître, disciple, on est dans un domaine de transmission de connaissances. Et dans un domaine de transmission de connaissances, il y en a un qui sait et l'autre qui apprend. Celui qui sait, peut-être il est né avant, il a appris avant, et il réexplique. Tandis que dans une relation de dominant-dominé, c'est dans une relation interpersonnelle. C'est pas une situation. Alors, bien souvent, c'est un peu tout mêlé. Mais s'il y a collaboration par rapport à la transmission de connaissances, elle se fera d'autant mieux que s'il y a une relation dominante-dominée. Je sais ce que tu dois savoir. Non. Il y a un problème que tu dois apprendre, comment on va faire tous les deux pour que tu l'apprennes le mieux possible. Voilà, oui, et c'est deux notions différentes.
Je voulais intervenir, mais ce n'est pas synonyme dominant-dominé.
Oui, c'est antériorité de savoir. C'est plutôt ça, savoir, c'est une transmission de... Enfin, moi, je pense, ça me fait penser à une personne que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Fabienne Verdier, qui est une artiste qui est née dans la région toulousaine d'ailleurs, qui a fait les Beaux-Arts, enfin ça ne lui plaisait pas, enfin, elle a fait des stages en Chine, et elle a mis plus de, je ne sais pas, 6 mois, 1 an, à se faire adopter par un maître calligraphe chinois, et tout ça en faisant preuve d'humilité par rapport à ce grand maître chinois. Et elle a accepté d'être dans une position presque de dominer, quoi, hein. Enfin, pas de entre guillemets, mais elle acceptait. Elle était humble par rapport à. Et je pense qu'il y a quand même dans l'enseignement, puisque ça a été évoqué, je suis d'accord qu'il faut qu'il y ait des relations, des échanges entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, et dans un esprit collaboratif, de collaboration. Mais qu'il faut accepter aussi que cette humilité, enfin, faut avoir de l'humilité par rapport à ça. Il faut accepter que quelqu'un, à un moment donné, en sait plus que nous et qu'on a à apprendre de lui, quoi. Sinon, c'est aussi nous qui voulons avoir le pouvoir sans avoir le savoir.
Je suis d'accord.
Cet exemple ne me parle pas parce que c'est notre rayon de culture, c'est une culture chinoise asiatique, c'est peut-être pas le nôtre. Moi j'y crois pas.
Mais elle était française, hein.
Moi je ne crois pas trop à l'égalité des personnes parce que on peut être dans une situation, quelqu'un qui domine un groupe, dans un autre groupe, toi tu n'oses pas te mouveter. Ça peut changer à tout moment avec la personne que tu as en face. Et moi je crois plutôt dans des mécanismes qui, pour être dans une situation où c'est le moins hiérarchique possible, il faut avoir des mécanismes qui font attention à ça. Je ne crois pas que c'est dans nous de devenir une question de société, de ce que tu as dit, à chacun de apprendre. Moi je crois dans des mécanismes de contrôle, contre-contrôle, pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui prend le pouvoir sur quelqu'un d'autre, ou sur un groupe. Moi je pense plutôt que qu'il faut avoir des bonnes règles, que de faire tout le monde égaux, et tout ça. Moi je ne crois pas trop.
On parlera dans l'organisation des jeudis en question.
Voilà. Je domine qui là?
Je le dis sans t'attaquer particulièrement.
J'ai entendu quelque
chose. Surtout quand tu envoies des mails où tu dis je suis toujours la chieuse, mais qui fait quoi finalement? Voilà. Bon, t'es pas la chieuse, non? Quelquefois il faut que ce soit clair qui fait quoi, et puis voilà. Mais dans le fonctionnement général des jeudis en question, il faut peut-être, à la lumière de ce qu'on a discuté et à la fin, appris ce soir, ou la réflexion qui a été menée, il faut peut-être effectivement qu'on modifie nos fonctionnements. Voilà.
Qui a envie de venir le mercredi prochain aux prochaines préparations des prochaines jeudis en question, 19h30 au Gengwa.
Voilà.
Avec un très bon repas partagé.
C'est pas au Gengwa, mais bon. Parce qu'il y a la chorale.